France Inter, le 18-20.
Une semaine en France avec un homme qui depuis plus de 30 ans joue les casques bleus en banlieue. Mohamed Mechmache est le fondateur et porte-parole du collectif Assez le Feu. C'est aussi le coprésident de la coordination nationale Passons-nous qui tente de faire entendre la voix des habitants des cités. C'est enfin celui qui depuis l'an dernier, depuis que la crise du Covid a éclaté, a permis aux familles les plus précaires de Seine-Saint-Denis de continuer à se nourrir grâce à des distributions alimentaires. Car il est comme ça Mohamed Mechmache, quand quelque chose ne va pas, il passe à l'action sans attendre et il va droit au but, comme sur les terrains de foot, l'autre passion de sa vie. Foot, politique, abstention, c'est peu dire que l'actualité de la semaine est faite pour lui, qui a été élu en son temps mais qui en est revenu. Il nous dira pourquoi. Avec nous également ce soir, Claire Chaudière qui suit pour la rédaction de France Inter la politique de la ville, les questions de logement et de discrimination. On découvrira d'ailleurs grâce à elle la plateforme mise en place par la Défenseure des droits.
Donc son fils est sorti hier soir avec un ami après la défaite de l'équipe de France qui s'est retrouvé dans un embouteillage et il s'est fait arrêter par les policiers qui lui ont dit d'arrêter de klaxonner. Et de là est partie une déferlante d'insultes et une amende non justifiée selon lui.
À 19h, le journal de Sébastien Paour. À 19h20, le téléphone sonne ce soir. Question sur l'origine des aliments qui se retrouvent dans nos assiettes. Comment connaître leur provenance? Surtout s'il s'agit de produits transformés. Comment lire au mieux les étiquettes? La loi Egalim 2, votée en première lecture à l'Assemblée, est-elle une avancée? L'UFC Que Choisir semble en douter. On en parle au 01 45 24 7000. D'avance, merci à toute l'équipe du 18-20, Mathieu Bellini, Adèle Domas, Fred Milano à la réalisation. Merci aussi aux standardistes et aux techniciens ce soir, Ludovic Asselot, Arnaud Caillé et Philippe Duclos.
Claire Servageant. Une semaine en France.
Bonsoir et bienvenue Mohamed Mechmache.
Bonsoir.
Vous êtes éducateur de rue, porte-parole et fondateur du collectif Assez le Feu. C'est comme ça que le grand public vous a découvert en 2005 lors des fameuses émeutes parties de Clichy-sous-Bois. Alors, je sais que vous n'aimez pas le terme d'émeute, on y reviendra. Vous êtes aussi le président de la coordination nationale Passons-nous. Pour résumer, Mohamed Mechmache, au risque de caricaturer, je dirais que vous êtes un petit peu la voix des habitants des banlieues, mais vous êtes surtout un homme d'action. L'an dernier, quand la crise du Covid a éclaté, vous avez fait comme toujours, vous vous êtes retroussé les manches, vous avez distribué à manger. Alors dites-nous pourquoi vous? Parce qu'a priori, c'était ce que faisaient les associations caritatives.
Bah écoutez, tout simplement parce qu'on est arrivé à une période où ce confinement, le premier confinement, était un confinement assez dur, sachant que pratiquement tout était fermé. On a effectivement des associations qui œuvrent sur le territoire, comme le Secours Populaire, les Restos du Cœur. Il s'avère que malheureusement, il y avait quand même pas mal de bénévoles, de personnes âgées, et qu'il fut un temps, ils étaient obligés quand même, malheureusement, de fermer. Alors bon gré, alors qu'en fait, ils n'auraient demandé qu'à continuer. Et nous, on s'était dit tout simplement que, bah, à partir de là, il fallait quand même qu'on agisse, qu'on sache que les familles qui sont, qu'on côtoie le jour, seront en grosse difficulté. Et donc, on a décidé tout simplement d'agir dans ce sens-là. Quoi.
Et vous avez pris le relais?
Et on a pris le relais pendant 2 mois et demi, où est-ce qu'on a distribué des milliers de colis alimentaires, avec bien entendu des bénévoles et des jeunes, beaucoup de jeunes qui se sont investis, des bénévoles qui sont arrivés d'un peu de tous les milieux. Donc ce qui était magnifique, c'était tout ce brassage de gens qui venaient de milieux modestes ou de classe moyenne, qui sont venus effectivement retroucher les manches et puis apporter tout leur soutien et leur solidarité à tous ces habitants et ces habitantes qui vivent dans ces territoires et qui effectivement en avaient plus besoin.
Il y a des entreprises qui vous ont aidé aussi, qui vous
bien
ont
sûr aidé. Ensuite, en termes de donateurs, il y a eu effectivement énormément d'entreprises qui se sont joints à cet élan de solidarité. On a un artisan qui est en Bretagne qui nous a contacté, qui nous a offert des biscuits, donc il nous a transféré des palettes. On a un transporteur qui tout simplement a entendu en disant comment je peux vous aider, donc on lui a demandé s'il pouvait aller à la métro et nous acheter des denrées alimentaires non périssables, chose qu'il a fait. On a la Fondation Abbé Pierre qui a été notre partenaire privilégié là-dessus, qui nous a beaucoup aidé et qui continue à nous aider. Il y a bien sûr, on l'a fait avec une autre association qui s'appelle Tout Couleur, qui est un centre social, donc il y a aussi la question financière de l'État aussi, qui sont venus soutenir la logistique. La ville de Clichy-sous-Bois qui nous a mis à disposition l'ensemble de sa logistique et de ses services. Mais c'est surtout effectivement toutes ces personnes qui ont contribué, y compris les jeunes issus de ces quartiers qui sont à leur compte, qui pendant cette période n'ont pas travaillé, ont décidé de venir avec des camions et de nous soutenir. C'était un vrai élan de solidarité et c'est ce qui nous a tout simplement permis de pouvoir pendant 2 mois et demi de tenir et de faire tenir toutes ces familles-là, quoi.
Parce que visiblement, la demande, l'attente était énorme. On a le souvenir de queues interminables de gens qui venaient chercher à manger.
Ouais, nous aussi, on a commencé au début, au démarrage, il y a eu 450 familles qui sont arrivées, puis on se retrouvait 2 à 3 fois par semaine où c'était 1500 familles qui faisaient la queue. Bon, vous avez dû voir effectivement les queues qu'il y avait. Bon, nous, pas très étonnés de savoir qu'aujourd'hui, il y avait quand même une perte dans le porte-monnaie, sans compter qu'il y avait quand même des dommages collatéraux, en sachant que derrière, il y a aussi des familles qui, malheureusement, vont se retrouver en difficulté, sachant qu'il fallait choisir s'ils devaient payer à manger ou payer leur loyer. Donc, il y a aussi tout cet aspect-là qui demeure encore. Hein. Les gens ne sont pas sortis, effectivement, de cette crise et de cette précarité. Donc, c'est quand même un souci dont nous, on ne pouvait pas être spectateurs. Il fallait qu'on soit, au contraire, acteurs de tout ça.
Alors vous dites c'est pas tout à fait terminé, c'est vrai que ça va quand même mieux, mais que vous continuez à distribuer des colis. Vous avez continué jusqu'à très récemment ce genre de distribution. On va écouter ce reportage de Claire Chaudière réalisé il y a 2 mois tout juste chez vous à Clichy-sous-Bois.
Une heure avant l'ouverture de la distribution, une longue file d'attente est déjà en train de se former dans la rue, des familles, des enfants, face à une trentaine de bénévoles dans les starting blocks.
On va y aller les familles, d'accord? On ouvre, ça y est. Jean-Louis, Bilal, Zubir.
Bonjour madame, vous avez votre carte?
Ça nous donne coup de main, il nous donne beaucoup de nourriture. Beaucoup de gens ne travaillent pas, non, ils n'ont pas retrouvé. Même s'ils sont payés, ils ne touchent pas beaucoup.
Awa, au chômage, Marie Charmantine, dont le mari a vu son salaire divisé par 2, et Demba, agent d'entretien, dont les heures se sont drastiquement réduites depuis 1 an, peinent à faire leurs courses.
Avec des aides de la famille, bon.
C'est la famille qui vous aide?
Oui, oui, avec la mairie, sans aide, on ne peut pas...
Là, on ne peut pas vivre comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? Tu peux pas remplir les frigos.
Un frigo qui s'est vidé 2 fois plus vite lors de la fermeture des écoles et donc des cantines scolaires au plus fort des confinements successifs, soupire Chantal.
Vous savez, quand il y a des enfants qui sont à la maison, on dépense beaucoup plus. C'est-à-dire que moi, je suis à temps partiel, je suis au tiers de vie. Voilà, et mon mari travaille dans la sécurité. On va dire qu'on est des travailleurs pauvres, quoi.
Et cette habitante de Clichy-sous-Bois s'inquiète aussi pour l'après-pandémie.
L'après-Covid, l'après tout ça, c'est là qu'on risque d'avoir à payer. Fatalement, peut-être moins d'aide. Fatalement, enfin, moi, c'est mon point de vue. Hein.
Bonjour, madame. C'est pour les bébés, madame.
Ah d'accord.
Pour les plus précaires, en tout cas, la reprise semble encore très fragile, témoigne Namissa, bénévole sur la distribution.
Je connais pas mal de mamans, ils faisaient des petits boulots, des petits ménages de 2 heures par là, 4 heures par là. Même ce matin, il y a une qui est passée, elle m'a dit, maintenant, je fais que 2 heures.
Au lieu de?
Au lieu de, avant, elle était jusqu'à 8 heures.
Par jour?
Par jour. Donc là...
Salaire divisé par 4.
Ah oui, exactement, divisé par 4.
Sortez par là, s'il vous plaît, madame.
À la sortie, un stand de dépistage Covid a été installé.
Là-bas, si vous voulez, on peut se faire tester. Hein. Ceux qui veulent faire le test après.
C'est vous qu'on entend, Mohamed Meshmash. 60 000 colis distribués. C'est évidemment beaucoup parce que c'est vrai, c'est ce qu'on entendait. Beaucoup de travailleurs précaires ont été encore plus touchés que d'autres. Toute l'économie informelle du secteur.
Tout à fait. Et puis, je veux dire, c'est ceux dont on parle jamais, qui sont les premiers quand même à être sur le front, parce que c'est aussi dans ces quartiers, comme elle a dit, ces travailleurs pauvres, malheureusement. C'est ceux-là aussi qui font aussi les beaux jours des grandes entreprises, quoi.
C'est le premier de corvée.
Les premiers de corvée, comme
on a dit, à qui on a fait des promesses.
Voilà. Et puis le quoi qu'il en coûte, moi, je pense qu'il aurait dû aller en direction de ses habitants en premier, quoi. C'était nécessaire pour eux, quoi.
Le gouvernement insiste quand même sur le fait que le plan de relance aujourd'hui concerne aussi les quartiers.
Bah écoutez, ils ont eu le droit à une prime qui a couvert les 2 mois, mais je trouve que cette prime ne suffit pas. Il aurait fallu qu'on continue jusqu'à qu'on sorte de cette pandémie. Je vous dis, les familles l'ont dit, derrière, quand vous êtes plus à la maison, automatiquement, c'est plus de charges, plus d'eau, plus d'électricité. Donc tout ça, ça a un coût derrière. Et quand vous avez déjà du mal à boucler les fins de mois et que là, il y en a qui s'endettent pour ne serait-ce que pouvoir se nourrir et nourrir la famille, ça devient compliqué par la suite. Et puis sans compter les impayés, c'est-à-dire que derrière, il y en a qui seront poursuivis pour non-paiement de loyer ou ainsi de suite. Donc la galère continue pour ces gens-là. Ouais.
Donc ça manque de moyens, y compris pour les associations comme les vôtres?
Écoutez, ouais, les moyens, on en a, et je veux dire. Mais en tout cas, nous, avec Cassez-le-Feu, on n'avait pas spécialement demandé de moyens financiers à l'État. On a la Fondation Abbé Pierre qui nous a beaucoup aidés avec des chèques-services, avec effectivement des financements pour acheter des denrées alimentaires. Et ensuite, il y a toute la générosité des gens qui aussi ont décidé de mettre la main à la pâte, quoi, je veux dire. C'est ce qui fait en sorte que ce que je dis dans nos territoires, Souvent, on nous regarde et malheureusement, on montre la minorité qui nuit à la majorité des gens. Et puis, quand il se passe des choses de solidarité autant comme ça, on n'est pas beaucoup montré. Ben, on tient à vous remercier en tout cas et à Claude Chaudière d'être venu faire ce documentaire et Le Monde, Brut, qui sont venus aussi montrer ce qui se passait.
On a bien dit quand même l'année dernière que la solidarité avait été essentielle dans ce moment si difficile.
Ben, vous savez, pour nous, c'est ce qui reste dans ces territoires-là, c'est cette solidarité. On a eu, malheureusement, en Seine-Saint-Denis, on a été le plus touché, quoi. Jusqu'à 138% de décès. Donc ça a été
Une surmortalité par rapport au reste
bien sûr,
de la France.
C'est que c'est les inégalités qu'on a vues accroître pendant cette pandémie. C'est tout ce qui, en fait...
Mortalité deux fois supérieure chez les personnes nées à l'étranger, tout simplement. Ça, c'est ce que...
Tout à fait.
C'est ce que l'INED a montré. Hein.
Tout
c'est
à fait.
L'INSERM aussi, dans ses études. C'est une réalité.
C'est une réalité. C'est dans ces territoires, c'est toutes les injustices, l'accumulation des inégalités qui, en fait, lorsque on se retrouve face à des pandémies comme ça, on voit bien lesquelles qui tombent les premiers, quoi. Donc, on a été aujourd'hui malheureusement touchés. Voilà, y compris moi-même. Donc, j'ai perdu mon papa à la période où je faisais la distribution. C'était très compliqué, difficile à vivre, y compris du fait qu'on n'a pas pu aller visiter mon papa, on n'a pas pu aller le voir. Il y a un sentiment d'abandon.
Parce qu'à l'époque, effectivement, on n'allait pas, on ne pouvait pas accompagner les familles à l'hôpital.
C'est ça. J'ai pas pu non plus ni accompagner mon père, qui avait décidé dans son souhait d'être enterré dans son pays d'origine.
L'Algérie.
L'Algérie. Donc je vous cache pas que c'est un peu compliqué pour moi. C'est difficile même à vivre actuellement, parce qu'on n'a pas fait le deuil, quoi. Voilà.
Et vous n'êtes pas le seul, Mohamed Mechmache, parce que de très nombreuses familles ont raconté cet aspect des choses dont on n'a peut-être pas suffisamment parlé, le fait de tous ces corps qui ont été rapatriés dans des avions cargo sans avoir pu être accompagnés. Ça aussi, c'est une réalité de cette pandémie particulièrement douloureuse.
C'est une réalité. J'ai une pensée pour toutes ces familles-là, justement, qui ont perdu des proches et qui, malheureusement, se sont retrouvées dans le même cas de figure que le mien. Je ne suis pas un cas isolé, hein, bien entendu. On a du mal à s'en remettre, y compris psychologiquement. Et on n'a pas non plus cette aide psychologique qui peut aussi venir nous accompagner, notamment dans ces territoires-là aussi.
Ben ça fait peut-être partie des aides dont il faudrait pourvoir le département. On va évidemment revenir sur tous ces aspects, Mohamed Mechmache, mais on va passer maintenant à l'actualité de la semaine, grâce à ce mix qui a été mis en onde par Anne-Cécile Perrin. À la une cette semaine, le Covid, qui n'a sans doute pas dit son dernier mot, des élections sans électeurs et un match dont on se souviendra.
Quelle pression sur les épaules d'Mbappé.
Kylian Mbappé qui regarde Yann Sommer qui prend sa course d'élan. C'est parti et l'arrêt de Yann Sommer. La France est éliminée de l'Euro 2020.
Ça met la rage, voilà, c'est tout, ça met la rage aussi. Non, je suis dégoûté du football.
Je suis désolé pour vous, hein, mais ma foi, c'est ce qui arrive quand on prend la Suisse de trop haut et puis voilà.
Si on s'arrête ce soir, c'est que on mérite pas plus.
Didier Deschamps déchante et Jean Castex encaisse.
C'est si facile de dire tout est la faute du gouvernement.
Il y a des semaines comme ça où rien ne va parce que la veille, les élections ont été marquées par une abstention record et un naufrage de La République En Marche.
C'est une responsabilité collective.
En visite dans le Nord, Emmanuel Macron n'a eu d'autre choix que de féliciter Xavier Bertrand sur ses terres.
Félicitations. Et heureux de vous retrouver ici.
L'abstention.
Hein, elle dit beaucoup de choses. Je suis content d'être avec vous parce que c'est une étape, mais on sait tout ce qu'il y a derrière.
Une étape, effectivement, avant la grande explication de la présidentielle.
Ce chemin de l'espoir, il démarre maintenant. Il démarre ici.
La droite a le sourire, mais gare au trop-plein de candidats pas encore déclarés. À gauche, ils sont deux à être sortis du bois chez les Verts cette semaine, Éric Piolle et Yannick Jadot.
Les élections régionales et départementales sont maintenant derrière nous, s'ouvre une nouvelle page vers la primaire des écologistes en septembre.
Je suis candidat à l'élection présidentielle.
Candidat à la primaire pour l'instant, première étape sans garantie, avec ensuite une autre bataille, celle du leadership à gauche.
La réalité, c'est qu'il y a, appelez-le comme vous voudrez, un plafond vert.
Le premier secrétaire du PS, Olivier Faure.
Ça ne permet pas d'aller jusqu'à la victoire.
Quant à Marine Le Pen, c'est son père qui la crucifie après ce scrutin.
Il y a un échec évident du Rassemblement National
qu'il attribue à ce qu'il appelle la
Délepénisation.
La quoi ?
Délepénisation.
Elle s'annonce sympa l'année 2022. D'ici là, l'exécutif envisage la poursuite des réformes, et notamment celle des retraites. Hors sujet, dit Laurent Berger de la CFDT.
Qui peut imaginer, alors qu'on n'est pas totalement sorti de la crise sanitaire, on a encore un variant qui plane au-dessus de nos têtes. Qui peut imaginer que ça passe crème ? Ça passera pas comme ça.
Dernière étape du déconfinement cette semaine. Plus de jauge, plus de restrictions, sauf dans le sud-ouest où le variant Delta remotive les candidats à la vaccination.
On a vu les informations et ça nous a un peu inquiétés. Alors du coup, on s'est dit, bon, ben, on va y aller. Quoi.
C'est pas un début de panique, je pense que c'est une prise de conscience. Elle est nécessaire et on est là pour les accompagner pour qu'ils se fassent vacciner.
À propos de vaccination, reste le cas des soignants. Le président du conseil scientifique, Jean-François Delfraissy.
J'ai changé d'avis, je vous le dis très franchement. J'étais contre l'obligation et il me semble que maintenant, on doit envisager une obligation au niveau des soignants.
À la rubrique, c'est catastrophe qui nous menace. Le changement climatique, plus que jamais.
Le record canadien absolu a encore été battu aujourd'hui. Il a fait 49 degrés Celsius en Colombie-Britannique.
Le GIEC le répète et l'Ouest canadien en fait la triste expérience.
C'est du jamais vu. Là, tout d'un coup, il fait 30, il en met 35, il en met 40, ça l'éteint 50.
Sinon, la nouveauté de la semaine, c'est l'allongement du congé paternité. 28 jours pour faire connaissance avec bébé.
Apprendre à gérer les pleurs de l'enfant, comprendre quand est-ce qu'il a faim, comprendre quand est-ce qu'il est un peu gêné, et puis aider la maman après l'accouchement.
Et vous pleurez beaucoup celui-là. Un grand merci à Anne-Cécile Perrin. Une semaine en France avec Mohamed Mechmash, fondateur et porte-parole du collectif Assez le Feu, co-président de la coordination nationale. Passons-nous. Je ne sais pas si vous souhaitez réagir, Mohamed Mechmash, à ce qu'on vient d'entendre.
Il y a beaucoup de choses. Hein,
si oui, mais on a le temps.
Ouais, d'accord. Bah, écoutez, déjà d'une, si on parlait football...
C'est dur pour Mbappé quand même.
C'est dur pour Mbappé, bien sûr, c'est dur. Et puis après, c'était aussi peut-être tout gagnant aussi, quoi. Parce que si il marque et que les autres auraient raté, c'est lui qui aurait donné le but de la victoire. Donc c'est un peu compliqué. Mais c'est sûr qu'après, derrière tout ce qui se passe et tout ce qui se dit,
Mbappé, c'est votre voisin. Il est à Bondy.
Moi, je connais bien son papa. On a joué ensemble au foot. Il jouait à Bondy, il jouait à Montfermeil. Donc on se connaît, voilà.
Comment ils ont réagi les gamins?
Ils sont très déçus, hein, les gamins. Tout le monde est déçu. Hein. Tout le monde pensait justement que la France championne du monde allait derrière effectivement faire le doublé, hein, comme en 98. Hein. Et ben non. Et puis c'est Deschamps qui l'a dit lui-même. Hein. C'est que s'ils sont là, c'est qu'ils méritaient ça, quoi. Et puis il faut passer à l'après, puisque dans un an il y a un mondial à préparer. Donc
C'est un vrai facteur de lien social, le foot.
Le football, oui. Moi j'ai été, c'est ma passion. De toute façon, j'ai été très actif là-dessus. J'ai joué depuis l'âge de 8 ans jusqu'à 38 ans. J'ai été après entraîneur.
On en reparlera, hein, Mohamed Mechmash, okay. Mais d'une manière générale, c'est un lien.
C'est un lien. C'est au contraire, on inculque plein de valeurs et au contraire, c'est ce qui fédère aussi. Et c'est ce qui permet à un moment ou à un autre de casser certaines barrières et au contraire, j'encourage, hein, tous les sports d'ailleurs.
L'actualité de la semaine, on l'a entendu, c'est aussi cette abstention record dans certains quartiers de banlieue. C'est une réalité depuis très longtemps. Là, on s'est tous dit, ben tiens, 2 Français sur 3 qui restent à la maison, c'est beaucoup. Mais dans les cités, c'était déjà le cas depuis un certain temps.
Ben écoutez, moi, je suis pas très étonné. De toute façon, nous, on avait tiré le signal d'alarme bien avant et on expliquait déjà, on interpellait nos responsables politiques en disant que la démocratie était en danger, quoi. Mais j'avais le sentiment que lorsque ça touchait des quartiers populaires et que clairement, à la limite, ces quartiers populaires n'étaient pas très intéressants en termes de voix, ça posait pas trop de problèmes en termes de démocratie. Là, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il y a une frange qui clairement ressemble peut-être un peu plus à ce que les politiques n'attendaient pas d'eux, et là, ça commence à devenir inquiétant. Ce que je veux dire, c'est qu'en gros, quand il se passe des choses dans ces quartiers, et qu'on ait une forme de thermomètre, et qu'on arrive à interpeller nos responsables politiques pour leur dire qu'il va se passer des choses, qu'il faut faire attention parce qu'on est dans une pente glissante, ils n'entendent pas. Il faut qu'il y ait d'autres exemples, et on l'a vécu avec 2005 et les Gilets jaunes. Voilà, donc résultat, c'est que tout le monde s'inquiète après de ce qu'on vit, ce qui se passe, quoi. Mais je suis très inquiet, effectivement.
Alors, parmi les villes où l'abstention a atteint des records, il y a Vaux-en-Velin, dans l'agglomération de Lyon. C'est un endroit que vous connaissez bien. Ça s'est encore vérifié le dimanche dernier. Reportage Christophe Vincent, qui était justement sur place.
À l'hôtel de ville, on peut rester 20 minutes sans voir un électeur. Heureusement, les assesseurs et les isoloirs prouvent que le bureau est ouvert. Son président, Stéphane Gomez.
Il y a une population qui n'a pas forcément toujours les codes pour voter, les codes de la citoyenneté, ou qui ne comprend pas l'intérêt de l'action publique et qui du coup ne se mobilise pas pour les élections quelles qu'elles soient, à Vau-en-Velin, mais globalement dans toutes les communes populaires.
Les Vaudais boudent les urnes, comme d'habitude, ce que regrettent deux jeunes qui votent, Shafik et Karine.
On a eu la chance de faire des études et d'avoir eu vraiment des cours d'histoire et d'éducation civique dessus. Donc si on ne vote pas, ben après on n'a pas le droit de se plaindre, puisqu'on n'a pas fait son devoir citoyen. Mais on peut comprendre quand même ceux qui ne votent pas.
J'essaie de voter à chaque élection. C'est, je pense, l'éducation. Je ne vote pas avec un enthousiasme fou, pas du tout, mais je me déplace quand même pour voter. Je trouve que c'est important.
Vous savez que Vau-en-Velin vote très peu, c'est la ville de France qui vote le moins.
Ça m'étonne pas, et en plus de ça, il y a déjà très peu d'inscrits de base. J'ai l'impression que les résultats, au final, ne représentent rien. Ça n'a plus aucun sens, en fait, comme résultat.
Vau-en-Velin, Christophe Vincent, France Inter.
À propos des inscriptions sur les listes électorales, Mohamed Mechmache, vous aviez battu le rappel à l'époque, c'était en 2005, je crois, enfin dans ces eaux-là, 2006 peut-être.
2005-2006, on a fait une grande campagne d'inscription sur cette électorale. À l'époque, il y avait pas mal d'artistes qui s'étaient engagés avec nous. Donc on a continué ça pendant trois années de suite, à sensibiliser, mobiliser. Ensuite, il y a eu énormément d'inscrits. Effectivement, il y a eu des records qui ont été battus. Mais derrière, je pense qu'il y a aussi le fait que les choses ne bougent pas beaucoup pour ces habitants et leur quotidien ne change pas. Donc il y a une forme de désintérêt, malheureusement. Et on a le sentiment que ces gens existent qu'à quelques mois des élections. Le reste du temps, ils n'existent pas. Et je pense que si on doit faire bouger certains responsables politiques, ça serait surtout plutôt à eux de bouger, plutôt que dire à ces électeurs « bougez-vous ». Et ça, j'ai trouvé ça un peu indécent, moi.
Alors, à propos de l'engagement politique, Mohamed Mechmache, vous êtes engagé vous-même, vous avez franchi le pas, vous avez été conseiller municipal à Noisy-le-Sec, si j'ai bien tout répertorié, vous avez été candidat aux européennes avec les Verts en 2014, vous étiez troisième derrière Eva Joly et Pascal Durand, c'est pas passé pour vous. Vous avez été conseiller régional aussi jusqu'au week-end dernier en Île-de-France. Vous avez siégé dans l'opposition avec les écologistes, opposition à Valérie Pécresse. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'avez pas trouvé votre place?
Non, écoutez, c'est simple. J'ai, pour moi, c'était important de pouvoir aussi y aller en politique. Je suis encarté nulle part. Hein. Je suis resté toujours en société civile. C'était simplement qu'au moment où on faisait les inscriptions, énormément de jeunes nous disaient « Vous êtes bien sympa, vous me demandez à les inscrire, mais pour qui on ira voter ?» La représentation se fait pas. Donc on s'est dit « Ils ont pas tort, il va falloir quand même qu'on franchisse le pas. » Donc j'ai vécu ces deux expériences. Une municipale où j'ai démissionné au bout de 2 ans. Et pourtant on avait gagné, donc j'étais dans la majorité. C'est simplement, tant qu'il y a des leviers, on peut faire changer les choses. Mais malheureusement, si on n'est pas d'accord sur les orientations politiques, moi j'ai quitté, j'ai démissionné, hein, je suis pas resté. Et ensuite, j'ai vécu l'expérience avec Europe Écologie Les Verts. Malheureusement, on est dans une opposition. Je vous cache pas que être dans un hémicycle, exister dans une opposition, je peux comprendre pour un parti politique, mais pour une personne comme moi qui, honnêtement, essaie de représenter ou essaie de faire vivre d'autres gens qui sont des gens qui ont le même parcours que moi, je voyais pas les leviers, quoi. Mais celle levier, pour moi, c'était plutôt l'action. Donc j'étais conseiller régional, mais j'étais surtout acteur sur le terrain.
Le terrain, c'est votre truc, hein. Plus que de siéger dans les assemblées. Vous avez été au CESE aussi, Mohamed Mechmache. Vous avez été également membre du conseil présidentiel des villes, cette structure qu'avait souhaité Emmanuel Macron, lancée en 2018. On se souvient aussi du fameux discours du président sur les mâles blancs lors de la remise du rapport Borloo. On l'écoute et puis après vous allez nous parler de ce conseil.
Je ne vais pas vous faire un plan parce que, puis quelque part, ça n'aurait aucun sens que deux mâles blancs ne vivant pas dans ces quartiers s'échangent l'un un rapport et l'autre disant « on m'a remis un plan, je l'ai découvert ». C'est pas vrai, ça marche plus comme ça. Les gens qui y vivent, qui font parfois depuis des décennies, ce sont des acteurs de ces sujets. Ils ont envie de faire. Ils ont une bonne partie des solutions. Elles ne sont parfois pas reconnues. Elles ont besoin qu'on les facilite, qu'on accélère. Elles ont besoin qu'on leur donne un statut. Elles ont besoin qu'on les porte, qu'on leur donne du sens. Elles ont besoin qu'on les aide à réussir. C'est ça la République.
Je vous vois hocher la tête, Mohamed Mechmache.
Oui, parce que j'ai tendance à dire il y a les mots pour séduire et les actes pour convaincre. Donc les mots pour la séduction, c'est une réalité, c'est ce qu'on disait. On va être acteur et auteur et pas spectateur. Mais ensuite, quand on doit passer à l'acte, ce que j'ai trouvé dommage Et dommageable, c'est que ce conseil présidentiel aurait pu permettre effectivement ce levier avec des acteurs qui venaient de différents milieux et qui clairement ont aussi une expertise et une expérience qui n'est pas négligeable. Et malheureusement, bah, écoutez, ça s'est retrouvé avec une coquille vide et je regrette bien. Et moi, je l'avais dit dès le départ, quoi. J'étais pas là pour effectivement être dans les salons, dans la vitrine. Moi, ce qui m'intéressait, c'était encore une fois d'essayer d'apporter, d'avoir des leviers et d'apporter des solutions pour ceux qui aujourd'hui malheureusement continuent à vivre ces inégalités, ces injustices. Et même en termes de discrimination, quoi, je veux dire.
On va parler des discriminations. Encore un mot sur les mots, justement, du président. Il parle de mâle blanc. Et puis aujourd'hui, dans le magazine Elle, il s'inquiète, dit-il, d'une société qui se racialise. Vous comprenez ce grand écart?
Écoutez, moi, ce que je comprends, c'est qu'on dit d'un côté une chose, on en dit une autre de l'autre. Je dis, moi, je suis en tout cas pas tellement étonné. Ce que je trouve dommage, c'est qu'en fait, il y a eu des rapports qui ont été faits avant celui de Monsieur Borloo. Je veux dire, nous, on en a rendu un avec Marilène Baquet, hein, qui était justement pour une réforme radicale de la politique de la ville. Ça se fera pas sans nous. Et il y a eu les cahiers de doléances qu'on avait faites en 2006. Où,
après votre tour de France.
200 000 doléances, 20 000 traités, ça faisait 130 propositions. Je veux dire, les constats, les analyses, on les a faites. Maintenant, s'il faut, c'est de la volonté politique pour pouvoir changer la chose et les choses. Et ça éviterait peut-être qu'aujourd'hui, on est en train de vivre, malheureusement, les sujets qu'on a à discuter. Si je pense qu'on aurait été pris en compte bien en amont, je crois qu'on serait pas aujourd'hui à faire ce constat-là ou à discuter de cette racialisation, ainsi de suite. Je pense honnêtement qu'on a loupé quelque chose et je crois qu'on n'est pas assez entendu, voilà, dans ce sens-là. Et c'est bien dommage parce que je me dis aujourd'hui, j'observe. Vous l'avez dit vous-même, ça fait très longtemps que je milite et je finis des fois par me fatiguer. Je suis pas le seul, on est beaucoup comme ça et ça serait dommage parce que je pense qu'on sera peut-être les derniers interlocuteurs qu'il y aura dans ces territoires-là.
Alors vous parliez des discriminations, le chef de l'État en a parlé aussi en décembre dernier dans son interview à Brut. Emmanuel Macron avait promis la mise en place d'une plateforme anti-discrimination. La défenseure des droits Claire Hédon l'a mise en place il y a 5 mois. Bonsoir Claire Chaudière, cette fois vous êtes en studio
oui,
avec
bonsoir,
nous.
Oui, bonsoir à tous.
Vous êtes allée voir Claire, comment fonctionnait cette plateforme?
Oui, je suis allée passer une matinée en fait avec les écoutants et les écoutantes de cette plateforme. Premier appel de la journée pour Anna, une mère est au bout du fil, elle appelle pour son fils, français d'origine maghrébine, après un contrôle policier qui, dit-elle, a mal tourné.
Le fils est rentré hier soir traumatisé. Il a 21 ans, il mesure 1,90. Il était traumatisé. Il lui a dit oui, vous êtes une racaille. On va vous tabasser.
D'accord, donc vous pensez que votre fils a été victime d'un contrôle au faciès?
Oui, et puis c'est pas la première fois, le pauvre. Hein.
Donc, son fils est sorti hier soir avec un ami après la défaite de l'équipe de France, qui s'est retrouvé dans un embouteillage et il s'est fait arrêter par les policiers qui lui ont dit d'arrêter de klaxonner. Et de là est partie une déferlante d'insultes et une amende non justifiée, selon lui. Merci beaucoup d'avoir patienté. Donc, vous faites bien cette saisine-là. Ce que vous pouvez rajouter, c'est le témoignage de l'ami de votre fils. Donc un témoignage, ouais. C'est un récit signé, daté, avec une copie de la pièce d'identité.
Bien sûr que hier, il était traumatisé, hein. Vraiment traumatisé, quoi. Et heureusement que moi, il arrive à se retenir, hein. Mais un jour, je me dis, il se retiendra peut-être pas. Et voilà, c'est pour que mon fils se retrouve en prison, machin, à cause de gens qui m'ont poussé à bout. Au bout d'un moment, voilà, c'est...
Je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à nous rappeler si vous rencontrez une difficulté sur le formulaire en ligne.
D'accord, merci.
Alors, sur la plateforme, 4% des appels seulement concernent des affaires de déontologie des forces de l'ordre. Ce sont des dossiers assez rares et assez complexes à traiter, mais qui peuvent malgré tout déboucher sur des demandes de sanctions.
Beaucoup plus fréquents, Claire, les cas de discrimination dans l'accès à un logement ou à un emploi.
Oui, en raison du patronyme, d'un handicap ou du genre. Les alertes remontent aussi via le chat de la plateforme. Camille, une autre écoutante, et devant son écran.
Et donc lorsqu'on est sur le chat, nous derrière on va venir répondre. Alors là par exemple, on avait eu l'exemple d'une personne qui pensait avoir été discriminée en raison de ses relations avec des personnalités politiques. J'ai vu tout à l'heure au niveau de la grossesse, des personnes qui à la suite de l'annonce de la grossesse, soit pour l'embauche, soit alors qu'elles sont déjà en poste, voient leur traitement changer. On va pas forcément dire directement oui, c'est une discrimination, non, c'est pas une discrimination, parce que on n'a pas tous les éléments.
Ce sera justement le travail de Robert, juriste du deuxième niveau. Il est dans la pièce d'à côté, il va lui enquêter et en moins de 30 jours.
Et ça implique donc de constituer un dossier avec tout l'ensemble des pièces nécessaires, les étudier.
on va interroger les mises en cause, on peut lui demander toutes les autres candidatures, les autres dossiers, et puis qui justifie pourquoi il n'a pas retenu cette candidature et pourquoi il a choisi l'autre. Finalement, ce sont des informations objectives.
Antidiscrimination, bonjour.
Conciliation, rappel à la loi ou judiciarisation, le destin de chaque dossier est différent. Des testings peuvent aussi être réalisés, envoyer de fausses candidatures quasi identiques pour vérifier s'il y a ou non comportement discriminatoire. Tout cela avec un impératif, perdre le moins de réclamants en cours de route.
Guillaume Fichet, je suis le chef du pôle juridique. On s'aperçoit qu'avec cette organisation, le premier niveau où on a beaucoup de temps à accorder aux réclamants, et après un deuxième niveau où on intervient très rapidement, il y a moins de personnes qui, entre guillemets, abandonnent par rapport à leur démarche, parce que c'est souvent ce qui arrive et c'est malheureusement ce contre quoi on doit se battre au quotidien. Pour la plateforme antidiscrimination, c'est vraiment le critère de l'origine qui ressort devant.
Ce qui n'était pas le cas avant ce dispositif, preuve que de nouvelles personnes sollicitent désormais le défenseur des droits. En 5 mois, plus de 5000 appels et près de 4000 saisines ont été enregistrées, des chiffres en forte hausse par rapport à l'année dernière.
Merci Claire, je précise que les signalements se font sur le site du défenseur des droits ou par téléphone au 39 28. Une réaction, Mohamed Meshmash?
Oui, bah écoutez, moi je, de toute façon, on n'est pas étonné sur cette question de discrimination. Le plafond de verre, il existe depuis très longtemps et notamment dans ces territoires. Je ne vais pas juste dire qu'il y en a que là, il y en a ailleurs aussi. Ce que je veux dire, c'est que cette plateforme, c'est sûr qu'elle va faire que de renforcer, que ça va exploser, parce que les gens sont tellement désespérés qu'ils pensent que cette plateforme va pouvoir aussi réguler et régler certains problèmes là-dessus. Je pense qu'il faut qu'on aille aussi encore beaucoup plus loin, c'est ce que j'avais déjà dit. Nous, on avait proposé à l'époque plusieurs propositions et une dont on avait dit, il faudrait peut-être mener une vraie campagne aussi de sensibilisation, avec des posts, des spots publicitaires, pas publicitaires, mais des petits spots pour expliquer en fait...
De sensibilisation.
Sensibilisation, qu'est-ce que c'est que discriminer, qu'est-ce qu'on coûte, ceux qui discriminent peut-être sans vraiment le savoir, et ce qu'il en sera. Ça fait des années qu'on demande ça, et du coup, pour l'instant, on n'y est pas encore. J'ai juste envie de vous dire qu'il y avait la HALDE à l'époque, si vous connaissez, c'était aussi la Haute Autorité qui était aussi censée effectivement...
Qui a été fondue dans le Défenseur des Droits.
Qui a été fondue dans le Défenseur des Droits, qui était aussi censée réguler un petit peu cette question de discrimination. Mais je veux dire, ça va être un sujet... ça va jamais se terminer, quoi. Je veux dire, j'ai juste envie de...
Est-ce que vous faites partie de ceux qui disent il y a trop peu d'affaires qui vont en justice? Il faut des affaires très médiatisées en justice pour que les choses changent. La conciliation, ce que je disais tout à l'heure, les rappels à la loi, ça a moins d'impact. Vous dites ça?
Non, moi je dis qu'effectivement, il faut qu'il y ait quand même quelques victoires là-dessus. Je pense qu'effectivement, il faut que ça aille devant des tribunaux et que les gens puissent, et que ça soit effectivement vu, et que les gens puissent...
Qu'il y ait une visibilité.
Une visibilité, c'est pareil quand on dit qu'il faut des spots de sensibilisation, c'est visible, c'est vu, c'est entendu, on se dit attention, là peut-être qu'il faudra que je fasse pas les mêmes erreurs. Je sais que la question du testing, Julien Normandie, quand il était ministre politique de la ville, avait aussi lancé les testings, donc ils avaient effectivement tout simplement... épingler pas mal d'entreprises, mais derrière, qu'est-ce qu'on fait, quoi? C'est bien de leur dire, c'est pas sympa, vous discriminez, mais il faudrait aussi sanctionner. Je pense que la sanction est incontournable.
Et en attendant, il y a aussi de moins en moins de mixité sociale dans les quartiers. Ça, c'est une réalité qui, contre laquelle il faudrait lutter, mais...
Il y en a, ça dépend maintenant de quelle mixité on veut parler, parce que du coup, quand cette mixité, elle est là, ben, on la traite de communautarisme. Et encore une fois, je veux dire...
Justement, à ce propos, on nous dit qu'il y a une tentation radicale dans les quartiers. Qu'est-ce que vous ressentez, vous?
Écoutez, moi, vous savez, ce qui me dérange encore une fois, c'est que, je vous ai expliqué tout à l'heure, en amont, on avait déjà un petit peu alerté sur toutes ces questions-là. Malheureusement, on n'a pas été entendu. Aujourd'hui, on est en train de discuter des conséquences, alors qu'on aurait pu régler le problème de fond. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'en gros... On se retrouve où est-ce que des habitants se retrouvent tous au même endroit. Je pense pas qu'ils ont choisi tous de se retrouver là. Il y a bien des gens qui sont aujourd'hui dans des commissions et qui décident les attributions de logement. C'est quand même fou que les mêmes personnes, qui soient de la même communauté ou ainsi de suite, se retrouvent tous aux mêmes endroits, dans les mêmes quartiers ou ainsi de suite. Et même clairement, maintenant, il y a une forme de racisme qui existe entre certaines communautés, et on se dit, bon, à un moment ou à un autre, c'est juste plus possible, quoi. Il faudrait aussi faire respecter la loi et ses rues, qui est 25% de logements sociaux qui soient construits. Il y en a qui préfèrent payer des amendes et ne pas recevoir un certain public. Moi, je dis à un moment ou à l'autre, il faudrait surtout réquisitionner les terrains et puis construire et puis ne plus laisser le choix, quoi.
Beaucoup de pain sur la planche, Mohamed Meshmash. On va parler de vous dans un petit instant, mais d'abord, on va écouter un disque qui va vous rappeler des souvenirs.
pilote à que je m'en souvienne. On voulait pas bosser pour qu'on nous retienne. Il eût fallu derrière nous s'attoper qu'à la course. Mais en tout cas rien n'a coulé de source. Y'a pas d'arrangement, pas de grimace. Juste le lendemain se regarder dans une glace. Faut le dire, on a fait ça pour faire la fête. Et se le dire, cette folie on l'a faite.
L'évidence n'était pas chez la voisine. Vous voulez chanter, eh ben casque maintenant. Il fallait qu'on s'y risque car c'est l'usine qui ouvre ses bras en criant. C'est donnant, donnant. Y'a pas d'arrangement, pas de grimace. Y'a pas d'arrangement, se regarder dans une glace. Y'a pas d'arrangement, on a fait ça pour faire la fête. Y'a pas d'arrangement, cette folie on l'a faite.
Y'a pas d'arrangement, y'a pas d'arrangement, y'a pas d'arrangement, y'a pas non non. Y'a pas d'arrangement, y'a pas d'arrangement, y'a pas d'arrangement, y'a pas non non non.
Et c'est ainsi qu'on est parti sur les routes. Les kilomètres auraient mérité, tu t'en doutes. Le mot respect ou qu'on nous donne un diplôme. Parce qu'on n'était pas dans un beau sous-marin jaune.
Croyez-le, y'a pas eu de miracle. On n'a pas fait demi-tour au premier obstacle. On n'a pas fait demi-tour et pour cette place.
Sous le déluge,
on a roulé sans essuie-glace.
On a caché ce qu'on avait de plus précieux. La cagoule et puis les bottes de sept lieux. On mouillait le maillot tout à la fois. Être trimard et saltimbanque, tu le crois.
Y'a pas d'arrangement, pas de grimace. Y'a pas d'arrangement, se regarder dans une glace. Y'a pas d'arrangement, on a fait ça pour faire la fête. Y'a pas d'arrangement, cette folie on l'a faite. Y'en a pas, y'a pas d'arrangement, non. Y'en a pas, y'a pas d'arrangement, con. Y'en a pas, y'a pas d'arrangement, non. Y'en a pas, y'a pas, y'a pas d'arrangement.
L'autre jour j'ai même dit à Mousse, il faut leur dire plus de couscous. Moi en tout cas je peux plus rien avaler. Les cassoulets, les taboulets, tous les poulets, poulets.
Je me souviens on était tellement pliés. On a envié
deux secondes
le monde ouvrier. Allez roulez si t'as plus rien dans le ventre. On vient, on met le feu et puis on rentre.
La vie de bohème peut se résumer ainsi. Je me promène avec madame pharmacie. Camol, Doliprane et Sagidal sont les trois mamelles des tueurs de balles.
Y'a pas d'arrangement, pas de grimace. Y'a pas d'arrangement, se regarder dans une glace. Y'a pas d'arrangement, on a fait ça pour faire la fête. Y'a pas d'arrangement, cette folie on l'a fête.
Il n'y a pas d'arrangement, un titre de Zebda de 1998, choisi spécialement pour vous, Mohamed Mechmash.
Merci.
France Inter. Une semaine en France.
Choisi par Djoubaka, je le précise. Mohamed Mechmash, en deux mots, votre histoire, vous êtes né en 66, en région parisienne. Vous devez donc avoir 54 ou 55 ans, je ne sais pas quand est-ce.
55.
Ah, ça y est, l'anniversaire a eu lieu. On l'a dit, vous êtes d'origine algérienne. Vos parents sont venus d'Algérie. Ils ont vécu, je crois, au début, dans le fameux bidonville
de Nanterre.
Vous étiez sept enfants. Vous avez grandi, vous, à Montfermeil, à la cité des Bosquets. Très jeune, vous avez été impliqué dans la vie de la cité. Vous avez monté des tas d'associations. La première à 16 ans, c'était jeune et autonome, vous organisiez des camps. Ensuite, il y a eu l'association Priorité Respect Citoyenneté en 90. Et puis, je le disais, il y a eu le foot, ça c'est quelque chose d'essentiel. Vous avez même failli devenir professionnel.
Oui.
Terrain, c'est ça?
C'est ça, exactement. Non, bah écoutez, c'est effectivement toute ma vie, ma passion, c'était celle de mon père, puis en son âme aussi, qui m'a beaucoup accompagné, qui a beaucoup accompagné beaucoup d'enfants de ces quartiers. Il était bénévole. Ouais, une passion qui malheureusement en 2005 me l'a fait quitter, hein, pour m'appliquer différemment sur d'autres aspects, hein, qui sont.
2005, quoi. On précise quand même. Hein.
Après la mort de Ziad Ebouna.
De Ziad Ebouna.
C'est ce qui a déclenché un petit peu ces révoltes sociales.
Vous dites révolte sociale.
C'est
un moment terrible. Pour ceux qui s'en souviennent, ça doit être gravé dans la mémoire des habitants.
C'est gravé dans la mémoire des enfants, et puis les enfants qui étaient petits, qui aujourd'hui ont grandi, s'en rappellent tout le temps, et puis ceux qui avaient 16 ans et qui en ont maintenant un peu plus sont encore touchés. Et en tout cas, Ziad Ebouna. Et Mutine, parce qu'on parle très peu de Mutine, qui malheureusement
qui lui a été blessé,
mais qui psychologiquement a été très touché. Ben on a toujours une pensée pour eux. Tout le monde, à chaque fois qu'il se passe des choses, rappelle la question de Ziad Ebouna. Donc ça reste un symbole. Et ce symbole, on le fait vivre à travers justement tous nos combats. Et donc on a une vraie pensée pour eux. Quoi.
Et tous vos engagements, Mohamed Mechmash, c'est beaucoup de sacrifices aussi. Évidemment, vous êtes éducateur de rue, c'est votre métier, mais c'est aussi tout cet investissement bénévole.
Oui, bien sûr, c'est tout cet investissement bénévole. Ça veut dire qu'en fait, vous faites un choix, vous laissez votre famille pour aller s'occuper d'autres personnes.
Ça veut dire que vos trois filles, vous les avez moyennement vues grandir, c'est ça?
Mes filles, toujours... j'ai vu moyennement grandir, voilà. J'en suis désolé pour eux. Enfin, j'ai quand même été là, mais peut-être pas autant que les autres. Je leur ai pas appris à faire du vélo quand d'autres leur apprennent à faire du vélo.
Mais c'est vrai que là, vous continuez, vous partez la semaine prochaine accompagner des familles en vacances.
On organise aussi avec l'association Tout Couleur, qui est le centre social. Là, donc, on est quand même soutenu par la ville, le département, l'État. On emmène depuis 12 ans 22 à 30 familles qui malheureusement ne partent pas. Et on s'est simplement dit que le droit au bien-être, le droit aux vacances, c'est aussi un droit. Que nos quartiers doivent pas rester des prisons, ça reste des prisons à ciel ouvert, et qu'il faut permettre justement à ce que des gens aillent à la rencontre d'autres gens et puissent tout simplement vivre normalement comme les autres, et que leurs gamins, quand ils rentrent à l'école, ils peuvent aussi raconter leurs vacances plutôt que ne rien mettre sur le papier ou ne rien dessiner, quoi.
Et vous, vous dites, je suis riche d'expérience.
Je suis riche d'expérience, de rencontres. Voilà, j'ai pu croiser énormément de gens, partager des moments avec des personnes dont j'oublierai jamais, y compris en termes de médias, en termes de responsables politiques, en termes d'humanistes. Je veux dire, ça m'a permis aussi, honnêtement, d'être riche de toutes ces expériences et d'avoir partagé ces temps-là avec ces personnes et ces combats qui, malheureusement, ne sont pas terminés. Et puis d'autres nous ont quittés. Donc j'ai une pensée pour eux. Et je voudrais surtout avoir une pensée pour tous ceux qui, en fait, se battent au quotidien dans ces quartiers. Qu'on n'entend pas, qu'on ne voit pas, qui n'ont peut-être pas la chance effectivement d'être aussi visibles que j'ai pu l'être. Mais en tout cas, moi, je resterai juste un porte-voix. Je suis pas le porte-parole de ces quartiers. J'ai pas la prétention d'y être. Et donc, j'ai une pensée pour eux et je leur dis, faut rien lâcher, quoi.
Eh ben, ce sera le mot de la fin. Un immense merci, Mohamed Mechmash, d'être venu ce soir sur France Inter. Un grand merci à Claire Chaudière aussi. Et je précise que le magazine Interception reviendra sur les conséquences de la crise en Seine-Saint-Denis avec Agira Mohamed. Ce sera le 11 juillet prochain sur l'antenne de France Inter. Ouais. Merci à tous.
Je peux vous rajouter une
petite chose?
Juste pour dire que la coordination Passons-nous va lancer un tour de France, justement, concernant un peu cette présidentielle, la question de lutter contre l'abstention, le fait que les gens se déplacent, que nos voix doivent compter. Donc ça va s'appeler nos quartiers ont de la gueule. Pourquoi nos quartiers ont de la gueule? C'est qu'il se passe des belles choses dans nos quartiers. Et on voudrait tout simplement que les gens en soient conscients. Et on a de la gueule parce qu'on a des choses à dire. Merci.
Merci beaucoup, Mohamed Mechmash.